ce soir, on a rendez-vous avec quelqu'un d'autre, avec un maître ancien, ce qui n'est pas votre cas, toujours alerte, malgré toutes ces diverses vies qui ont failli lui être fatales. Peut-être que certains se rappellent que ça a commencé comme ça. Comme la fin d'une répétition, Long Time Gone, une chanson associée à un groupe qui a fait une page d'histoire qui s'est tournée il y a près de 50 ans déjà, celle du festival de Woodstock, un festival qui, beaucoup le savent, s'est tenu en pleine nature en août 1969 au nord de New York dans un champ de luzerne prêté par un fermier. Woodstock restait un nom légendaire connu dans le monde entier à la faveur d'un documentaire long de 3 heures qui fut au cinéma un des grands grands succès de l'année 1970 et qui a révélé, parmi tant d'autres choses, un tout jeune groupe qui donnait en pleine nuit ce qui n'était que le second concert de son existence devant des centaines de milliers de personnes. Ce groupe avait pour nom Crosby, Stills and Nash. Neil Young aussi était déjà là, mais ni le public présent, ni les spectateurs du film ne pouvaient le savoir, puisque Neil Young avait, en ce soir historique, choisi de rester dans la pénombre, tout simplement. Pourquoi ? Parce que il avait refusé de se laisser filmer, estimant que c'était une distraction insupportable et que voilà, ces gens-là, avec leurs caméras, n'avaient rien à faire sur la scène du festival. Alors, Crosby, Stills and Nash, avec ou sans Neil Young, a été, en ce tout début des années 70, un des groupes les plus populaires au monde, presque autant que les Beatles de la fin ou Simon & Garfunkel. Aujourd'hui, beaucoup connaissent surtout Neil Young, mais il faut pas oublier que les trois autres étaient alors des musiciens plus connus que lui, notamment David Crosby, et c'est lui qu'on vient d'entendre chanter sa composition Long Time Gone, un blues un peu jazzy, traversé d'harmonies vocales complexes, bien dans sa manière, un style qui en est venu à s'identifier à une certaine musique californienne de la période, liée également à ce qu'on appelait la contre-culture de la période. Et selon l'expression consacrée, ça a été souvent imité et jamais égalé. Et alors c'est avec David Crosby que je vous propose de passer cette semaine. David Crosby est musicien finalement mal connu en dehors d'un cercle de connaisseurs, et c'est franchement dommage parce que son originalité et même son audace musicale ont été uniques en leur genre. Oui, Crosby, Stills and Nash, tout le monde connaît, mais enfin David Crosby, lui, c'est différent. Il a su mêler dans ses albums solo, c'est également son apport avec ce quatuor célèbre, des styles très différents. Blues, on l'a entendu, mais aussi jazz atonal, il était un grand admirateur de John Coltrane, musique modale du nord de l'Inde, il a été un des premiers musiciens occidentaux à s'inspirer du raga du maître du sitar Ravi Shankar, musique médiévale française aussi, on l'entendra. David Crosby, qui a 77 ans, est dans une éblouissante forme musicale et vocale, comme j'ai eu l'occasion de le constater il y a quelques semaines en compagnie des spectateurs de l'Olympia. Et j'ai eu également une grande chance, c'est de m'entretenir en coulisses, c'était une vingtaine de minutes, pas beaucoup de temps, peu de temps avant le passage de Crosby sur scène, qui était dans une forme très surprenante, on pourrait même la qualifier de miraculeuse, tant le terme de survivant est, dans son cas, employé, franchement, au sens fort. Parce que c'est vrai, David Crosby a failli mourir au moins deux fois. Il a, c'est pas moi qui le dis, mais lui, dans sa première autobiographie qui est parue déjà il y a plus d'une vingtaine d'années, fait, je cite, toutes les conneries possibles. Il faudra bien d'ailleurs que je vous en dise deux mots. Et pourtant, il est là. C'est un peu, si vous voulez, comme Keith Richards. C'est un phénomène qui défie la médecine. Alors, vous aurez l'occasion d'entendre cette interview, ce sera dans le Very Good Trip de demain soir sur France Inter. Alors, je vous prie d'avoir un peu de patience, parce que pour bien apprécier les propos de David Crosby, il faut d'abord prendre la mesure de son apport si singulier à l'histoire de la musique populaire mondiale et surtout commencer par le commencement. I don't know who you think you are. I don't know what you're doing here. What's going on here? I don't know how it's supposed to be. I don't know.
crying, laughing mostly. As you can see,
But it's been burned, les premiers pas d'auteur, compositeur, interprète de David Crosby. C'était en 1967 au sein des Byrds, avec un Y, bien sûr, le groupe de Los Angeles au sein duquel il s'est fait connaître, même s'il n'y est pas resté très longtemps. Les Byrds ont aidé à faire émerger tout un pan, on pourrait même dire un continent, hein, de la musique populaire américaine. Comment ? Eh bien, ils ont été historiquement les tout premiers a greffé avec un immense succès les mélodies traditionnelles du folk américain avec ses thèmes contestataires à l'énergie et au rythme entraînant apporté aux États-Unis dans ces années-là par les Beatles, ce qui a été une véritable révolution. Puisque d'ailleurs c'est après avoir entendu les Byrds traiter son Mr. Tambourine Man à la façon justement d'une chanson des Beatles que Bob Dylan s'est mis à son tour à jouer du rock'n'roll. Faudra d'ailleurs dire, pour être plus exact, il s'est remis, hein, puisque en fait Dylan avait commencé par là, adolescent à la fin des années 50, avant d'incarner triomphalement la chanson folk politiquement engagée à New York. Alors oui, les Byrds ont été à la source de ce mouvement très important, surtout en Californie, dont il était issu et qu'on a appelé le folk rock. Mais pas seulement, parce qu'il faut pas perdre de vue que les Byrds, à l'image des Beatles, unissaient des personnalités musicales très différentes, tantôt fusionnelles, tantôt rival. Alors il y avait chez les Byrds d'abord Jim McGuinn, hein, bientôt rebaptisé Roger, une histoire de renaissance mystique, pas m'étendre là-dessus. C'est un musicien à la sensibilité très folk, hein, proche de Dylan. Et puis il y avait aussi, certains diraient surtout, Gene Clark, qui composait des chansons mais sublimes, magnifiques, aux mélodies sinueuses et plaintives, qui ont été le modèle de celles que jouerait une vingtaine d'années plus tard le groupe R.E.M. dans les années 80. Et puis il y avait David Crosby, qui était un peu écrasé par ces deux-là, sans oublier Chris Hillman, le plus inspiré de tous par Lennon et McCartney. En tout cas, David Crosby, c'est celui qui a apporté aux Byrds une liberté musicale, rythmique et harmonique, qui était encore très très peu répandue dans le rock. Il était un grand admirateur de Miles Davis et de John Coltrane, hein, je vous l'ai dit. Ses mélodies et ses accords avaient la souplesse et la liberté de ce jazz moderne-là. Et puis, il avait aussi découvert, je vous en ai dit un mot, le raga indien de Ravi Shankar. Ravi Shankar qu'il avait même croisé dans un studio. Et d'ailleurs, Crosby me l'a confirmé quand je lui ai parlé dans l'entretien qu'on a eu à l'Olympia. C'est lui qui a initié George Harrison des Beatles à la musique indienne, enfin au raga, et à ces volutes répétitives, lesquelles se sont d'ailleurs retrouvées au cœur de la révolution psychédélique californienne. Il suffit d'écouter ce que faisait le Grateful Dead pour en prendre la mesure. Alors voilà, David Crosby avait une personnalité trop forte pour rester longtemps au sein des Byrds, et dès l'année 67, eh bien, il avait rencontré à Los Angeles un musicien exceptionnel, Stephen Stills, fondateur du groupe Buffalo Springfield, un des meilleurs de la période. Buffalo Springfield, au sein duquel s'était fait connaître un tout jeune guitariste canadien appelé à connaître une grande notoriété, Neil Young. Alors Crosby avait donc joué sur scène avec Buffalo Springfield au festival de Monterey en Californie, 67, et puis il était aussi très lié au groupe de San Francisco, Jefferson Airplane. Hein, on leur a consacré une émission récente à l'occasion de la mort du chanteur Marty Balin. Et c'est avec Paul Kantner de Jefferson Airplane que David Crosby a composé la chanson que je vous propose maintenant, Wooden Ships. Alors, Stephen Stills d'ailleurs a mis une dernière main à ce titre, à les bateaux de bois, à la résonance, les barques de bois, je ne sais pas comment traduire, à la résonance biblique où une poignée d'élus se retrouve, moi j'imagine des radeaux, voilà, fuyant une terre contaminée par une catastrophe, une sorte de châtiment divin, en l'occurrence une catastrophe nucléaire. Voilà, c'est Crosby, Stills & Nash qu'il interprétait en 1969. Je reviendrai sur la formation du groupe. Ils l'ont fait d'ailleurs, je le précise, un an avant Jefferson Airplane, qui a créé cette chanson dans l'album Volunteers. La voix et les paroles de David Crosby, Wooden Ships, avec Crosby, Stills & Nash, il y a près de 50 ans déjà, et ce soir, c'est sur France Inter.
Six or 7 weeks now, I haven't gotten sick once.
the shoreline, let us be talking about very free and easy. As we watch you die, all we can do is echo your anguished cries. Stare as all human feelings die. We are leaving, you don't need us. Sister, then by the hand, lead her away from this foreign land, far away where we might laugh again. We are leaving, you don't need us.
South on my shoulder, guess I'll set a course and go.
Very good trip, Mishka Assayas.
Almost cut my hair. It happened just the other day. It's getting kind of long. I could have said it was in my way. Letting my freak flag fly. Yes, I feel like I owe it to because I had the flu for Christmas, and I'm not feeling up to par. increases my paranoia. Like looking at my mirror and seeing a police car. But I'm not giving in an inch to fear. Cause I promised myself this year I feel like I owe it to myself together. I'm going to get down in that sunny southern weather. And I find a place inside the lab. Separate the wheat from the chaff. I feel
trois guitares, pas moins celle de David Crosby, Stephen Stills et Neil Young, mais une seule voix, celle de David Crosby dans ce classique de l'année 1970, Almost Cut My Hair, un blues qui est un des sommets de l'album Déjà Vu, signé Crosby, Stills, Nash and Young, un album qu'on trouvait alors dans de nombreuses discothèques d'amateurs de pop music, hein, comme on le disait drôlement au début des années 70. La pochette avait quelque chose de fascinant, sur une édition limitée, à la pochette ouvrante, à l'épais carton granuleux, je m'en souviens parce que je l'avais, était collée une photo sépia à l'aspect délibérément vieilli et jauni. C'est un cliché qui représentait donc les membres du groupe et puis les deux musiciens de la section rythmique, Greg Reeves et Dallas Taylor, comme un groupe de soldats au repos pendant la guerre de sécession. Alors on voit David Crosby assis avec un fusil posé sur ses jambes croisées. Alors l'idée de cette image venait, je l'ai appris en me documentant, de Stephen Stills, qui était un passionné à l'époque de la guerre de sécession, d'ailleurs tout comme Bob Dylan. Et un photographe de ses connaissances avait retrouvé un appareil photo de la période, hein, des années 1860, qui réclamait un temps de pose extrêmement long, hein, plus de 2 minutes. D'ailleurs, c'est ce qui explique souvent les expressions très figées que pouvaient avoir nos aïeux sur ces clichés qui impressionnaient les plaques d'acier à partir desquelles on faisait les tirages. Et bien, c'est la technique qu'ils ont utilisée. Cette chanson de David Crosby qui s'appelle « Almost Cut My Hair », hein, « Je me suis presque coupé les cheveux », détonne pas mal par rapport au reste du disque. C'est un blues assez dur, dont Neil Young considère, à juste titre d'ailleurs, que c'est un des sommets de David Crosby. Les paroles et la colère de Crosby sont très représentatives d'une des facettes de sa personnalité, celle, passez-moi l'expression, d'une grande gueule de la contestation. Et alors, il avait écrit la chanson qu'on a entendue au début de cette émission, « Long Time Gone », sous le choc de l'assassinat de Robert Kennedy, un homme politique qui avait fait naître en lui l'espoir d'un monde meilleur. Et puis, le climat en quelques mois, un peu moins de 2 ans, s'était assombri. Et comme beaucoup de hippies devenus très politisés, comme lui, David Crosby, en 69-70, s'estimait persécuté par la police et le FBI, pour son opposition notamment à la guerre au Vietnam, et il s'estimait en danger imminent d'être emprisonné. Alors dans ces conditions, se couper les cheveux, ça pouvait être une tentation, celle de ne pas attirer sur soi l'attention de ceux qu'on appelait, entre guillemets, les gardiens gardien du système, mais non. Alors David Crosby se redresse fermement et s'exclame « Non, je ne me couperai pas les cheveux, sous-entendu non, je ne renierai pas mes convictions et je garderai la tête haute ». Voilà, ça c'est un des aspects de Crosby, mais enfin il y en a un autre qui est peut-être un peu moins simple à décrire. On peut entendre dans le premier album signé Crosby, Stills and Nash, et paru donc en 69, une chanson qui ne ressemble à rien de ce qu'on avait entendu jusque-là. Vous allez l'entendre, bien sûr, deux mots d'explication. Fin 68, début 69, David Crosby, Stephen Stills et l'anglais Graham Nash, qui avait connu une grande notoriété en Grande-Bretagne comme chanteur principal des Hollies, hein, un groupe qui avait longtemps rivalisé dans son pays avec les Beatles, hein, en termes de succès et de notoriété, eh bien ces trois-là s'étaient retrouvés à Laurel Canyon, qui était alors un quartier bohème de Los Angeles, à l'écart de Hollywood, enfin dans les hauteurs, mais pas trop loin. Crosby était alors subjugué, sur tous les plans d'ailleurs, par la musique d'une femme qu'il aimait, Joni Mitchell. Cette chanteuse et guitariste canadienne avait apporté, c'était la première, au folk, des rythmes différents, venus du jazz, et surtout des accordages de guitare très inusités, totalement inusités, en tout cas dans le folk. Et c'est selon un récit authentifié par les intéressés, dans le salon de Joni Mitchell, que David Crosby, Stephen Stills et Graham Nash, assis avec leur guitare, ont commencé à chanter en polyphonie. Et Guinevere, c'est une de ces chansons sur lesquelles tant de guitaristes en herbe du début des années 70 se sont mais arrachés les cheveux parce que l'accordage est incompréhensible, le découpage en mesure plus que bizarre et le rythme indiscernable. Et pourtant, c'est absolument magique. Guinevere, c'est Guenièvre hein, en français, évoque, enfin faut le savoir, une sorte de, comment dire, de ménage à quatre, hein, un homme amoureux de trois femmes différentes. Comme dit Crosby, une, c'était Joni Mitchell, une autre, Christine Hinton, sa compagne, qu'il allait douloureusement perdre des suites d'un accident de voiture, et puis une troisième dont encore récemment, Crosby disait qu'il était obligé de taire le nom. C'est comme ça. En tout cas, un qui a tout de suite reconnu le génie de David Crosby, c'est Miles Davis, qui a tenu à créer une version alors totalement méconnaissable de Guinevere dans son album Bitches Brew, dont je vous propose ce soir sur France Inter l'original. Alors comme on dit des choses un peu dangereuses, essayez pas de faire ça à la maison.
as she turns her gaze down the slope to the harbor where I lay anchored for a day.
Guinevere had golden hair like yours, lady, like yours, streaming out when we'd ride through the warm wind down by the bay. Yesterday,
seagulls circle endlessly, I sing in silent harmony. We shall be free. Look around again. It's the same old circle you see. It's got to be it sets right here on that you should grab a hold of it as you find it's best to burn. Rainbows all the silver and gold, it'll make you old. A river can be hot or cold, and you should dive right into it. I have swallowed of wine. Life is fine, even with the ups and downs, and you should have a sip of it.
David Crosby en duo avec l'anglais Graham Nash en 72 dans une chanson qui s'appelle Page 43, page 43. La signification d'ailleurs assez énigmatique, enfin bien dans le ton post-hippie de la période, le sens de la vie est page 43, ah bon. Le fleuve peut être froid ou tiède, faut plonger dedans, sinon tu vas passer à côté de ta vie, allez bois un coup, la vie est belle, malgré ses mauvais côtés, etc. etc. C'est le groupe Grateful Dead qui accompagne les deux hommes. L'album dont est tirée cette chanson, paru en 72 et qui s'appelle tout simplement Graham Nash, David Crosby, n'a, à ma connaissance, jamais figuré dans ces listes absurdes qu'on n'arrête pas de dresser des, entre guillemets, meilleurs albums des années 70. Alors absurde, parce que pour être honnête, ma liste personnelle, elle change tout le temps, tous les jours, toutes les semaines. Et puis ce soir, après avoir réécouté et dans certains cas découvert ces albums de David Crosby en solo ou bien avec Graham Nash, que je connaissais peu ou mal, eh bien je mettrai dans une de ces listes au moins deux ou même trois, enfin à l'heure où je vous parle, avant de changer d'avis dans une semaine ou même demain. En tout cas, la beauté, la variété, la liberté, l'invention que David Crosby s'est avéré capable de puiser dans ces années-là ont tout simplement quelque chose de confondant, et parfois il faut écouter plusieurs fois ces mélodies de David Crosby, celles de son premier album solo de 71, If I Could Only Remember My Name, et puis ces deux albums en collaboration avec Graham Nash, celui dont je viens de vous parler, 72, et puis When on the Water, qui est paru en 75. Il faut faire ça vraiment pour prendre la mesure des splendeurs que c'est. Alors je ne sais pas si c'est dû au fait que, comme l'a avoué Crosby lui-même, il n'y a pas une chanson qu'il ait de toute sa carrière composée sans avoir été sous l'influence d'une drogue quelconque. C'est un témoignage intéressant. Enfin, bon, maintenant, faut pas perdre de vue qu'il y a des gens qui ont pris les mêmes drogues que lui à la même période, qui ont rien fait de mémorable dans aucun domaine. Il faut en tout cas, bon, admettre que les musiciens de ce courant post-psychédélique, déjà très talentueux par eux-mêmes, ont recouru à des produits qui les ont désinhibés, et en tout cas, enfin, leur ont permis d'explorer certaines zones exceptionnelles, impossibles sans doute à atteindre dans un état de conscience normal. Parfois, il faut vraiment réécouter ces chansons pour se convaincre qu'elles ont réellement existé, tant elles paraissent merveilleuses. Un exemple, eh bien voici un, To the Last Whale, hein, à la dernière baleine, une sorte de chant funèbre, hein, plein de pessimisme adressé à la dernière baleine, échouée sur le sable. David Crosby et Graham Nash l'ont créé pour un album de 75 qui s'appelle donc Wind on the Water. Alors prêtez attention à la polyphonie qui introduit cette chanson. Il faut savoir que l'anglais Graham Nash avait été, selon ses dires, très inspiré par les polyphonies bulgares qu'un musicologue suisse avait découvertes dans des villages reculés. C'était il y a bien longtemps, dans les années 1950, et puis qu'un tout autre public, dans les années 80, un peu le public de l'après-punk, avait découvert dans un album qui avait été publié par le label 4AD, label de Londres, et qui s'appelait « Le mystère des voix bulgares ». Et juste après cette chanson, vous entendez une très belle réinvention par David Crosby en 71, d'une ancienne comptine française, et oui, le carillon de Vendôme, ça remonte au début du 15e. Alors j'ignore totalement comment il était tombé là-dessus, en tout cas il a pris une partie des paroles qui dit « Orléans, Beaugency, Notre-Dame de Cléry », c'est-à-dire ça correspond en fait au moignon de royaume qui allait rester longtemps au futur Charles VII, qui avait été écrasé par les Bourguignons et maté par les Anglais avant eh bien la reconquête illustre du royaume de France, galvanisé par la mission de Jeanne d'Arc. Enfin, je m'arrête là. David Crosby et Graham Nash, To the Last Whale. Da, da, da.
don't wanna care. Under the bridges, over the foam, wind on the water, carry me
Very Good Trip, Mishka Asayas.
Thank you.
La très belle polyphonie qui achève le premier album solo de David Crosby, If I Could Only Remember My Name, paru en 71, ça s'appelait I Swear There Was Somebody Here. Alors, pour se quitter ce soir, eh bien, je propose de vous mettre en appétit. On va écouter un tout petit extrait de l'interview de David Crosby qui m'a accordé dans les coulisses de l'Olympia. C'était il y a, je sais pas, quelques semaines.
Non.
Pardon.
I don't think that's any of your business.
Mais ça vous regarde pas. Mm-hmm.
Personal stuff.
Yeah.
Okay. That's an answer. C'est une réponse. Alors, j'ai oublié de traduire les émus, évidemment, ça n'a pas de sens. Sinon, je lui demandais qu'est-ce qui se passerait si il recevait un coup de téléphone de Graham Nash pour qu'ils se retrouvent et qu'ils fassent de la musique ensemble. Il dit, bah non, et je lui demande pourquoi, bah ça vous regarde pas. Voilà, c'était une réponse. Merci à Stéphane Roux, secrétaire des émissions, à Tristan Gratalon, à la technique, Zora Ben Spali et Romain Couturier.